Ouais, pour avancer. Madame à l'église. Hello à tous. Alors, je vous connais plus que vous me connaissez. Durant ma première année à l'IBG, nous avons fait une semaine d'évangélisation, il y a 2 ans et demi, et nous l'avons passée ici, cette semaine d'évangélisation, à Antibes. Donc, on chantait Oh Happy Day, ici sur la scène. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'étais dans la chorale, en playback. C'est chouette que ce soit Adrien qui ait fait la présidence parce qu'ils nous ont mis à disposition leur maison avec toutes les conséquences que ça comportait par la suite. Mais pendant un an, ce qui nous a permis de nous installer dans le sud et d'être formés à grâce à l'Action biblique où je suis. Et Dieu voulant, je serai engagé comme pasteur là-bas. Donc je tiens encore à les remercier devant tout le monde pour leur beau geste de générosité. Bah, Adrien ne voulait pas vous plomber le moral, mais je vais le faire un peu ce matin quand même. Et c'est la première fois que je viens prêcher, peut-être la dernière, j'espère pas. Mais je vais vous parler du psaume 6 ce matin, qui est un psaume de type lamentation. Un psaume de lamentation. Alors, je vais lire le psaume 6, version NEG 79. Bon, peut-être qu'il y a des mots qui vont changer dans votre lecture, mais ça ne devrait pas impacter la traduction. Et puis après, on se lance. Ça va, vous êtes avec moi? Ok. Psaume 6. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sous la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus d'épouvante. Ils reculent, soudain, couverts de honte. Psaume chapitre 6. Océan Atlantique Nord. Nous sommes dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Le Titanic avance à une vitesse de 41,7 km/h. Et le veilleur de nuit, Frederick Fleet, sur le pont supérieur, aperçoit droit devant lui un iceberg s'élevant à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. 37 secondes plus tard, le géant des mers heurte l'iceberg de plein fouet. Il déchire littéralement la coque du bateau sur les 5 premiers compartiments et l'eau commence à inonder le bateau. 10 minutes plus tard, le bateau s'est déjà enfoncé de 4 mètres sous le niveau de la mer. Le naufrage est inévitable. De minuit 45 jusqu'à 2h17 du matin, 3 minutes avant le naufrage, l'équipage enverra incessamment des SOS sur les ondes maritimes. Mais les navires sont beaucoup trop loin pour éviter la catastrophe. Et nous sommes le lundi 15 janvier à 2h20 du matin et le Titanic n'existe plus. 1500 personnes sont mortes dans cette une des plus grandes catastrophes maritimes de l'ère moderne. Et il y a beaucoup d'erreurs humaines qui ont été commises. Il n'y a eu pas assez de canots de sauvetage, L'équipage n'avait pas été entraîné à gérer ce type d'événement. L'évacuation des passagers a été mal organisée. Les canaux ont été sous-chargés. Le commandant a maintenu le paquebot à une vitesse hallucinante compte tenu des conditions climatiques. Les rivets en usine, la construction, les rivets étaient sous-dimensionnés, ce qui a permis à la coque de se déchirer. Mais en plus des responsabilités humaines, il y avait des responsabilités extérieures qui ont aggravé la situation. Les circonstances climatiques, le brouillard, la pénombre, l'apparition d'icebergs géants sur la route du Titanic. Il y avait une eau et une température extérieure proche de 0 degré qui laissaient 20 minutes de survie aux naufragés dans l'eau. Finalement, une responsabilité plus complexe qu'il n'y paraît, une situation de détresse, de naufrage extrêmement complexe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré la situation désespérée, malgré les circonstances aggravantes extérieures, malgré les erreurs humaines, les fautes des hommes, l'équipage du Titanic n'a cessé d'envoyer des SOS. Si bien qu'un paquebot a répondu à l'appel et a dévié de sa route. Et ce paquebot a pu sauver 700 personnes d'une mort certaine sur les 2200 passagers. Un SOS salutaire, un SOS bien orienté, un langage que les marins comprenaient pour sauver 700 personnes. Pas une bouteille à la mer balancée on ne sait où, avec, si la chance le permet, un bateau qui viendra nous sauver. Non, un SOS bien orienté. Ben, ce matin, on voyait dans ce psaume, comme le Titanic, le roi David fait également naufrage. Il fait naufrage. Comme le Titanic, sa détresse, elle est complexe. Elle est un mélange de responsabilité personnelle de la part du roi David, de mauvais choix, d'une faute en particulier, on le pense, et elle est aussi mélangée avec des circonstances aggravantes. On pense qu'il était accablé d'une maladie grave et même qu'il y aurait des persécuteurs pour aggraver sa situation. Donc une situation complexe qui l'entraîne dans une détresse extrême comme on l'a lu. David était désespéré, impuissant, souffrant d'insomnie, spirituellement largué, souffrant physiquement, psychologiquement. Alors, toute proportion gardée, est-ce que vous reconnaissez dans cette situation? Tes études ont peut-être fait naufrage. Tu ne sais plus où t'en es. T'as tout raté. Ta vie professionnelle est en ruine. T'avais des ambitions là et tu te retrouves là en dessous. Ton corps est un fardeau que tu portes. Tu enchaînes maladie sur maladie. La bonne santé, en fait, n'est qu'un lointain souvenir. Ta vie de couple est un naufrage. Ton mari ou ton épouse n'est pas à la foi. Et c'est une lutte toute la semaine pour parler de Dieu au sein de ton couple. Et ta vie spirituelle se noie au milieu de toutes ces détresses. Comme David, tu sais finalement plus comment t'en es arrivé là, à ce point de non-retour. Alors, vous savez, ce psaume nous concerne ce matin, il vous concerne ce matin. Il nous enseigne que dans une situation apparemment sans issue, désespérée, complexe, dans laquelle je suis peut-être responsable ou peut-être pas, je ne sais plus, eh bien nous devons nous tourner vers notre Sauveur et Seigneur et lui envoyer, lui adresser un SOS. C'est ça que le psaume nous enseigne ce matin. Si vous n'avez plus les mots ce matin pour quelconque situation dans votre vie, si vous n'avez plus les mots, le psaume 6 les a. Alors, nous allons explorer la détresse du roi David. On va un peu regarder ces 11 versets. Je crois qu'il y en a 11. Ouais. Il y a 3 effets de la détresse, 2 négatifs et 1 positif. Et comment la détresse, le naufrage de David est devenu salutaire? Comment le naufrage s'est transformé en sauvetage? On va voir qu'il y a eu un effet spirituel à sa détresse. Ça l'a touché avec son Dieu et son âme. Il y a eu un effet organique. C'est physique, c'est un synonyme. C'est pour faire SOS dans le plan. Ça a touché son corps. Ce n'était pas une souffrance abstraite. mais sa détresse, comme le Titanic, a envoyé un SOS, eh bien, elle est devenue salutaire. Elle est devenue salutaire. On est parti ? Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi. Guéris-moi, Éternel. Mon âme est troublée. Reviens, Éternel. Délivre mon âme. Vous voyez, dans les versets 2 à 6, David expérimente une souffrance, une détresse qui est tout d'abord spirituelle. Elle impacte sa relation directe avec Dieu. Son naufrage a un effet sur Dieu et sur son âme. Tous les versets 2 à 6 sont une interpellation directe de David envers l'Éternel Dieu, tout-puissant, saint et redoutable. David l'appelle, David crie à lui. Il désire dialoguer avec ce Dieu saint. Et David se sent tellement repris dans son cœur qu'il implore la pitié de Dieu, verset 2. Il implore sa pitié. Ne me punis pas. Ne me châtie pas, Seigneur éternel. Dieu serait-il devenu un ennemi? Dieu serait-il devenu un adversaire? Un bourreau au lieu d'un libérateur, d'un sauveur, d'un ami? Mais David a compris que ses fautes sont dirigées contre Dieu. Exclusivement. Toutes les fautes sont dirigées contre Dieu. Quand bien même nos fautes n'affecteraient aucun être humain de façon horizontale, eh bien nos fautes affectent Dieu de façon verticale. Ça affecte Dieu et par conséquent notre relation avec Dieu. Nos péchés pourrissent notre relation avec Dieu. Et le roi, il est tellement repris dans son cœur, j'ai l'impression qu'il a conscience d'une faute en particulier. Peut-être il subit l'effet d'une maladie qui, l'un entraînant l'autre, peut-être pas. C'est complexe. Ce qu'on sait, c'est qu'il est profondément abattu, qu'il a brisé sa relation avec Dieu, qu'il craint pour sa vie. Il craint pour sa vie. Alors quand on lit ce psaume, c'est pas marqué comment David en est arrivé là. On est juste là avec les conséquences de la détresse dans la vie de David. Et je me dis que, quelquefois, j'ai porté moi-même des jugements hâtifs sur la situation d'un frère ou d'une sœur, en disant, bah, s'il en a rêvé là, c'est parce que ça, ça, ça et ça. Et finalement, ça lui fera une bonne leçon. Vous n'avez jamais pensé ça? Et je demande pardon au Seigneur, parce que je n'avais pas tous les éléments en main pour juger, et quand bien même, je n'ai pas à juger de sa situation, mais à aider cette personne à traverser les conséquences de cette détresse, de ce naufrage. Et la raison pour laquelle le grand roi David parle en tête-à-tête avec Dieu, envoie un SOS, c'est parce que ce grand roi David est avant tout un enfant de Dieu face au Dieu saint et redoutable. Et la confiance quand même, la confiance en l'Éternel domine au-dessus de la crainte du jugement. C'est pour ça qu'au verset 3, regardez, on change un peu de ton. David invoque le rétablissement de sa personne. Verset 3, il ne dit plus « Ne me punis pas, ne me châtie pas, Seigneur. » Mais voici ce qu'il dit. « Aie pitié, guéris-moi. » En fait, Dieu n'est pas son adversaire, mais son libérateur. Dieu est le seul capable d'intervenir pour le sauver de ce naufrage. Il n'invoque pas le Dieu de colère, mais le Dieu de compassion qui rétablit et qui guérit. Parce qu'en fait, d'après l'Écriture, d'après la parole de Dieu dans son entièreté, le Dieu de colère est aussi le Dieu de bonté et le Dieu d'amour. Il n'est pas soit l'un, soit l'autre. Il est l'un et l'autre. Et David, même avec une partie de l'Ancien Testament dans ses mains, vous savez, il n'avait pas tout l'Ancien Testament dans ses mains, le roi David. Mais même avec une partie de la loi dans ses mains, eh bien, il connaissait déjà ce Dieu de bonté, ce Dieu de compassion, ce Dieu de miséricorde. Il ne fallait pas attendre le Nouveau Testament pour découvrir un Dieu de bonté et de miséricorde, comme on l'entend souvent. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est un Dieu de colère, cruel, et le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est amour. Mais non, parce que Jésus est celui qui a parlait le plus de l'enfer et du jugement. Et l'Éternel, dans l'Ancien Testament, a fait grâce à un peuple pendant 1000 ans qui était infidèle, immoral, pernicieux. Ouais, c'est pas forcément l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et David fait appel en tant qu'enfant de Dieu à l'Éternel qui guérit, qui rétablit. Il a confiance en lui, la confiance domine cette crainte qu'il avait au verset 2. Est-ce qu'on a une vision de Dieu qui est juste, qui est globale, qui n'est pas morcelée et incomplète? Et vous savez, une vision de Dieu morcelée et incomplète, comme si c'était deux dieux différents, Ancien Testament, Nouveau Testament. On a une vision morcelée et incomplète, ben, elle s'accompagne d'une lecture de la Bible morcelée et incomplète. Comme si j'ouvrais un grimoire magique et je pioche un verset, un texte, qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui? Et on n'a pas cette vision globale de la grande histoire de la Bible. Et je vous encourage à traverser cette merveilleuse histoire qui a changé des millions d'hommes, du début à la fin, pour avoir une vision globale de Dieu, tel qu'il se révèle. Et vous aurez cette image de l'Éternel qui est un Dieu de colère, mais un Dieu de compassion et d'amour. Et versets 4 et 5, « Mon âme est toute troublée. » L'âme de David, elle est affectée. C'est dans ses tripes. Il le sent. Il est troublé. Il sait que ses fautes sont dirigées contre Dieu. Il connaît consciemment le péché. Il a une vision juste du péché. Il sait que Dieu seul peut rétablir cette situation extrême. Alors il s'adresse à Dieu avant d'entamer quoi que ce soit d'autre dans sa vie. Et il fait bien. Sinon, il ne trouvera jamais le réconfort et la paix intérieure. Vous savez, celle qu'on vous dit de chercher dans ce monde. Yoga, méditation, ésotérisme, pierre énergétique, homéopathie, sophrologie, tout ce que vous voulez. Trouve la paix intérieure. Et David, il n'a pas perdu de temps. Il s'adresse au seul sur l'univers qui peut lui donner cette paix intérieure quand la relation est rétablie avec l'Éternel. En fait, David se repent. C'est ni plus ni moins qu'une repentance dans toute sa forme. Il se repent et ça mobilise tout son être, même son âme, surtout son âme. Ça mobilise tout son être parce qu'il sait que le péché abîme tout son être. Et rien d'autre n'influence notre grand Dieu qu'un cœur abattu et meurtri. Rien d'autre n'influence Dieu, pas de sacrifice, pas d'offrande, pas de bonnes actions, pas de compensation. Rien d'autre qu'un cœur abattu et meurtri pour qu'il revienne et pardonne. Et David, vous savez, dans le psaume 38, il pose des mots qui sont crus sur le péché. Et il nous donne ça en pleine face. Psaume 38, 6. Aussi, c'est un psaume de lamentation. Il dit, « Mes plaies sentent mauvais, elles pourrissent. C'est le résultat de ma stupidité. » Il n'a pas pointé la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il analyse sa situation et il sait qu'il a été stupide. Est-ce que vous reconnaissez ce champignon? On dit souvent que les pharmaciens peuvent reconnaître tous les champignons. Il n'y a pas de pharmacien? Un dealer de drogue? Non, je rigole. Vous reconnaissez ce champignon? Mais il n'y a pas de forêt à Antibes ou... C'est quoi? Bon, à Leclerc, ils n'en vendent pas, en Carrefour? Et qui veut se lancer? Oui, c'est une... Non. Presque. En fait, c'est le jumeau de la morue. J'ai pris volontairement un jumeau qui ressemble en tout point à une morue. D'accord? Oui, ça s'appelle un gyromitre. Une morue, c'est excellent, en fait. Une petite omelette et tout ça, excellent. Manger un gyromitre... Et vous aurez des troubles neurologiques graves, tels que la maladie de Charcot, une atteinte du foie et des reins. Mangez un gyromitre et vous finissez en dialyse. Et dans 10% des cas, vous mourrez. Un jumeau d'un champignon comestible excellent. Personnellement, j'ai tendance à rendre le péché comestible. Vous voyez ? Mais c'est un poison fatal. Il se cache sous une forme comestible, viable. J'ai tendance à embellir mes fautes, à rendre le péché comestible, mais il est mortel. Il est mortel. Le péché est sérieux et dangereux. Et David nous l'enseigne dans le psaume 6 à ses dépens. Il nous l'enseigne. Ce matin, ne faisait pas du gyromitre une morie. Ne rendez pas le péché comestible dans vos vies. Luttez contre vos fautes, vos péchés. Dieu est là pour vous secourir. Dieu est là pour vous tenir la main. Ne faites pas du gyromitre une morie. Vous allez la retenir, celle-là. Verset 6. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les vivants le louent et l'adorent. Et David nous dit que la véritable mort, c'est l'absence de louange à Dieu, en fait. Si vous avez déjà lu le livre de John Piper, que toutes les nations se réjouissent, il soutient cette vérité, c'est que la mission existe là où l'adoration n'existe pas et que la base de la mission, c'est que des morts reprennent vie. Et comment est-ce qu'on sait ça? C'est quand des gens se lèvent et adorent Dieu. C'est là qu'on sait qu'ils sont vivants réellement. Et la mort, c'est l'absence de louange et d'adoration à Dieu. La détresse du roi David l'affecte spirituellement. Elle a rompu sa relation avec Dieu. Il est abattu, il est à genoux, il est à terre. Est-ce que vous connaissez un roi qui a connu une telle détresse spirituelle? Et on passe au deuxième effet de la détresse de David. Elle n'est pas seulement spirituelle, son Dieu, son âme qui est troublée, mais elle a un impact physique réel, sérieux, concret. Ça touche durement son corps. Sa détresse, elle est organique, elle est physique. Versets 7 et 8. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Épuisement, insomnie, tristesse. Comment sa situation est survenue, on ne sait pas. Mais David était affligé d'insomnie. Il éprouvait de grandes souffrances physiques, psychologique, une perte de vitalité, une perte du goût de la vie. Vous avez vu, son visage était marqué d'une sorte de dépression et il était dans une léthargie totale, une fatigue extrême. Sa détresse, elle est physique, elle est loin d'être abstraite. C'est du concret, du réel. Ça a l'impact dans son corps, dans son sommeil, ça se répercute dans sa vie quotidienne, ses motivations, ses craintes. Son envie de vivre. Vous reconnaissez peut-être une situation de votre vie où vous pensez à un frère ou une sœur. Le psaume 6 aborde ces sentiments et ces situations d'une façon honnête. C'est singulier à la religion chrétienne d'aborder la souffrance d'une manière aussi honnête, aussi crue, aussi vraie. Ouais, le bouddhisme va vous dire que la souffrance, elle est abstraite. Il faut t'élever par la méditation au-dessus de la souffrance et elle va disparaître. L'islam va vous dire que c'est la fatalité, en fait. La souffrance, elle est là parce que Allah l'a voulu. Donc, il n'y a rien à faire. Dans l'hindouisme, on va vous dire que c'est le karma. Tu l'as bien mérité dans ta vie précédente. Le christianisme va vous dire que le grand roi David a traversé cette souffrance. Regarde, tu peux comprendre. Et je comprends ta détresse et ta souffrance. Waouh! Ça, c'est une vérité forte qui va parler à mon voisin, ma voisine, ma collègue, dans ma famille, à mon époux, à ma famille qui n'est pas croyante. Ça va parler, ça. Parce que les gens souffrent, même sur la Côte d'Azur, même pendant les vacances. Les gens souffrent. David n'a plus de mots pour exprimer sa souffrance. Alors le roi pleure sur le lit au fond de sa chambre. Vous imaginez un roi dans une telle position? En fait, je me dis qu'en 2025, on pourra appeler ça une dépression. Je suis pas médecin, psychologue ni psychiatre, mais je me dis que ça ressemble quand même. Et j'ai regardé de 2017 à 2021, chez les adultes français, on a noté une explosion de 80% des épisodes dépressifs. 80%. Est-ce que c'est le psaume 6 un problème du Proche-Orient ancien, d'il y a 2000 ans? Ou est-ce que finalement la Bible aborde un problème d'aujourd'hui, concret, réel, qui est encore là dans nos vies? Et la moitié des psaumes, j'ai été étonné par cela, sont des psaumes de lamentation. Est-ce qu'on chante des psaumes des lamentations dans notre église? C'est pas très à la mode non plus. Enfin, non plus faire que se lamenter, hein. Mais en tout cas, si la Bible donne une place conséquente, on peut sans tabou donner une place conséquente aussi à la lamentation. En fait, les larmes et les cris sont les bienvenus au pied de Dieu, seuls ou en église. Et à quoi Dieu s'attend lorsque vous traversez un naufrage et une détresse? C'est pas que vous vous détourniez de lui et que vous alliez vous morfondre dans votre petit coin, non. C'est que vous vous tourniez à lui, que vous dialoguez avec lui, que vous pleurez à ses pieds. C'est à ça que Dieu s'attend. C'est comme ça que vous devez répondre au psaume 6 ce matin. Et si votre vie traverse un naufrage, ou quand votre vie traversera un naufrage, c'est cette réponse-là que vous devez avoir en tête. Ne cherchez pas de solution ailleurs. Tournez-vous vers Dieu. Et au verset 8, si là, on se noie ensemble dans les abysses de l'océan Atlantique Nord, au verset 8, là, on boit la tasse. Pour ajouter encore à la détresse, au verset 8, il y a l'apparition d'ennemis. Vous savez, des moqueurs qui se délectent que le roi David fera ce naufrage. Il l'enfonce encore plus. Le roi David est KO à terre et ses ennemis leur mettent des coups de pied. Ils mettent des coups de pied. Ils l'achèvent. Et David sait que l'apparition d'ennemis sont dues à ses fautes. Regardez au psaume 38, 17, en parlant de ses ennemis, il prie Dieu et dit « Empêche-les, mes ennemis, empêche-les de prendre un air supérieur lorsque je fais un faux pas. » Empêche-les de prendre un air supérieur lorsque je fais un faux pas. Est-ce que vous imaginez un roi dans une telle position? Pire, un roi qui s'est laissé vaincre par ses ennemis. J'ai bien aimé cette citation, je vous la lis. Je considère vraiment ce livre, le livre des psaumes, comme l'anatomie des différentes parties de l'âme. L'anatomie des différentes parties de l'âme. Car personne ne ressent un mouvement de son esprit qui ne se reflète dans ce miroir. Les soucis, les troubles, les craintes, les doutes, les espoirs, les peines, les perplexités, les tempêtes qui ont agité le cœur des hommes. Tout cela a été décrit avec une profonde exactitude dans ce livre. Alors c'est Jean Calvin, mais comme je viens de l'abbé, ça faisait trop cliché, donc j'ai retiré. Waouh ! C'est un miroir de mon âme, le livre des psaumes. Dans mes moments de joie, de bénédiction, de victoire, et surtout dans mes moments de défaite, de naufrage, de détresse. C'est un miroir pour mon âme. C'est utile. Et finalement, moi, ça me rassure. Parce que les croyants du Proche-Orient ancien traversent les mêmes émotions que moi en 2025 et que vous. Parce que personne n'est exempt de souffrance et de détresse ici-bas. Je peux m'identifier à cette situation extrême. Toute proportion gardée. Comment cette détresse est devenue salutaire? Salutaire, vous savez, c'est quoi la définition du Larousse? Propre à rétablir l'organisme. Profitable à l'état moral de quelqu'un. Salutaire, c'est aussi bien physique que spirituel. Ça touche tout. Si le péché abîme tout notre être, le salut restaure tout notre être. La détresse de David, si on s'arrêtait, au verset 8, on dit, mais le mec, il fonce droit dans le mur, là. Mais non, elle a eu un effet salutaire. Dieu a changé la situation. Je dirais que le vent a tourné car Dieu a soufflé. Lisez ce changement de ton surprenant. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus d'épouvante, soudain couverts de honte. Cette souffrance n'a pas été vaine entre les mains de Dieu. C'est la foi qui se fait entendre. Et c'est maintenant les ennemis qui sont troublés, effrayés, couverts de honte. Le vent a tourné, Dieu a soufflé. Alors la victoire est certainement encore à venir hein, quand il écrit ce psaume. Mais c'est la foi qui parle. Il a confiance en Dieu, tellement confiance qu'il sait que sa situation, il va s'en sortir. De toute façon, même si Dieu ne le délivrait pas de sa détresse, vous avez lu la Bible ? À la fin, ça se termine bien. Le juste triomphe de l'injuste. De toute façon, le juste triomphe de l'injuste. Et le juste, c'est quoi ? Est-ce que c'est un saint qui ne commet jamais d'erreur, qui n'est jamais infidèle, qui ne commet pas de péché ? Non, le juste, regardez le roi David, c'est quelqu'un qui confesse ses péchés, qui les pose aux pieds de Dieu et qui s'en repent. C'est ça le juste. Ce n'est pas quelqu'un qui ne commet pas de péché, mais quelqu'un qui les dépose aux pieds de Dieu, qui les confesse. Comment ce naufrage se transforme en sauvetage ? Je vous l'ai répété. Une détresse salutaire est orientée vers Dieu. Elle est orientée vers Dieu. Ne balancez pas une bouteille à la mer vers je ne sais qui, ou allez pas je ne sais où, vers quelques solutions bidons. Il y a des solutions médicales qu'il faut adopter. Mais la première chose à faire, c'est s'orienter vers Dieu. Déposer tout cela. Et après, agissez de manière concrète dans votre vie. Et Dieu ne délivre pas systématiquement pour nous faire mûrir, quelquefois, la situation perdure, pour nous éduquer, parce que c'est notre Père, il nous aime, pour nous apprendre à nous reposer en lui, pour nous apprendre la dépendance saine à sa personne. Une détresse, de toute façon, elle est salutaire quand, de toute manière et en toutes circonstances, je l'oriente et je l'adresse à Dieu. Sinon, la souffrance, la repentance, ça, si elle n'est pas adressée à Dieu, elle est vaine. Elle est inutile, elle est perdue. J'étais étonné d'un article de Tim Keller qui a traversé un cancer assez rude, qui maintenant est mort, qui disait ceci durant son cancer. Le titre de l'article, c'était « Ne gaspillez pas votre cancer ». Vous imaginez ? Dire que c'était une opportunité, sa souffrance, pour parler de ce Dieu qui console et qui le soutient à travers cette souffrance. J'ai personnellement traversé une période de faillite très grave avec une entreprise que j'avais. Après 4 années, j'ai complètement été au fond de la vague, dans le creux. J'avais presque 200 000 euros de dettes. Je n'avais pas de quoi rembourser. Les huissiers toquaient à la porte. Ils notaient la plaque de ma voiture. Ils recensaient ce que j'avais dans la maison. Ça a été difficile. Mais j'aurais dû dire, ne gaspille pas ta faillite, Jonathan. Elle n'est pas vaine, elle n'est pas inutile. J'ai appris la dépendance à Dieu. J'ai appris la valeur de l'argent, le travail. Waouh ! Maintenant, je bénis Dieu. Ouais, dans une culture où je dois faire bonne figure, dans une culture où je dois garder le sourire, vous savez, enterrer la souffrance, vivre ma meilleure vie, poster ça sur Instagram, les meilleurs moments de ma vie en photo et en vidéo, en shorts, en reels. Non, Dieu m'appelle à ne pas dissimuler mes fautes, à lui les présenter. Est-ce que vous connaissez un roi qui a vécu une détresse spirituelle, physique, mais salutaire ? Moi, je connais un roi qui a vécu une détresse SOS, telle que le psaume 6 en parle. C'est un roi qui a cité le livre des psaumes plus que n'importe qui. C'est un roi qui... C'est considéré même comme l'accomplissement de certains de ses psaumes, de toutes les prophéties de la Bible. C'est le roi ultime, le roi des rois, Jésus-Christ. Il a vécu une détresse spirituelle, mes frères et sœurs. Il a vécu une rupture avec son Dieu. Il a connu la nuit de l'âme durant ses dernières heures d'agonie. Lui qui n'était pas responsable de cette situation. Elle n'était pas complexe, sa situation. C'est juste qu'il était innocent à 100%. Et voici ce qu'il dit en Jean 12, 27. Il cite le psaume 6, un morceau. Il dit « Mon âme est troublée. » Et que dirais-je ? Délivre-moi de cette heure ? Mais c'est pour ça que je suis venu. Jésus est venu pour vivre la détresse ultime. Dans le jardin de Gethsémané, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Sur la croix, il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas une détresse spirituelle, ça. Jésus a vécu une détresse spirituelle dont on ne peut mesurer l'intensité et les souffrances qu'il a traversées. Et Jésus a vécu une détresse physique, concrète, réelle. La mort et la résurrection de Jésus ne sont pas un mythe. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une illusion des apôtres et des 500 personnes qui l'ont vu. C'est un personnage historique, marqué dans les livres d'histoire, attesté par ses amis, ses collègues et par ses ennemis. Il a vécu l'angoisse à genoux. Il a sué des perles de sang à l'idée des souffrances qui allaient l'attendre. Il a supplié par 3 fois son Dieu de l'épargner. Il a envoyé 3 SOS. Aucun d'eux n'a trouvé preneur. Les SOS de Jésus sont restés sans réponse. Au contraire du roi David. Je connais un roi qui a été pendu au bois, abandonné par ses amis, trahi par ses ennemis, crucifié, mais qui, au contraire de Dieu, a prié pour ses ennemis. Il a dit « Père, pardonne-leur. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Un roi qui pardonne encore aujourd'hui nos fautes. Et la détresse de Jésus-Christ est devenue salutaire, et je terminerai par là. Il a pris, vous savez, verset 2, là, il a pris la fureur et la colère de Dieu sur ses épaules à la croix. Il l'a porté afin que son immense détresse devienne salutaire pour nous tous. C'est parce qu'il a porté la détresse ultime, la fureur et la colère de Dieu, que je me tiens debout ici, que j'adore Dieu, que je suis en relation avec ce Dieu, que je peux m'adresser à lui, que je peux l'orienter des SOS dans ma détresse et mes naufrages. J'ai l'assurance qu'aujourd'hui mes SOS sont reçus par le Dieu Tout-Puissant, saint et redoutable, grâce au roi Jésus-Christ. Ce matin, est-ce que vous connaissez ce roi? Est-ce qu'il fait partie de votre vie? Est-ce qu'il conduit vos pas? Est-ce qu'en ouvrant les yeux, vous dites « Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes ». Je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à vous tourner vers lui. Si vous n'avez pas de Bible, prenez une Bible, lisez-la. Vous allez voir ce Dieu de colère, mais ce Dieu d'amour, qui a déversé sa colère sur ce roi Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne vie chrétienne en Jésus-Christ. Et je vais prier. Merci pour ta détresse, pour la détresse de ton Fils, Seigneur, spirituelle, physique et salutaire pour moi, ce matin, pour nous. Seigneur, merci pour le psaume 6 qui aborde la détresse, la souffrance d'une façon claire, honnête, vraie, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu qui n'enterre pas la souffrance, mais qui nous demande de t'en parler, de dialoguer avec toi pour nous la déposer à tes pieds, Seigneur. Aide-nous dans notre vie quotidienne. Nous sommes encouragés parce que en Jésus-Christ, nous pouvons te parler et être en relation avec toi, Seigneur. Que pour cette année qui se renouvelle, cette année scolaire qui se renouvelle, Seigneur, nous puissions marcher à tes côtés d'une façon renouvelée, Seigneur, dans nos victoires de cette année et dans nos défaites de l'année qui vient, Seigneur. Que voilà, on soit toujours conscient que c'est Christ qui a vaincu la détresse ultime. Amen.